On va aborder un thème très particulier, pédagogie et anarchie, sachant que les camarades du syndicat CNT 93 ont engagé une réflexion sur cette question-là depuis un petit moment et que vous avez même projet, si j'ai bien tout entendu, de produire un écrit sur ce lien entre pédagogie et anarchie. Donc à vous la parole pour une demi-heure.
Donc bonjour à tous. Effectivement, on représente la CNT Éducation 93 et la CNT plus largement. Au sein de la CNT, on a créé un groupe de travail qui est aussi un groupe de recherche qui s'appelle Anarchie et Pédagogie. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. D'abord, on va recadrer un peu ce que c'est que la CNT, notre organisation. Et on en viendra à notre réflexion générale et puis à l'organisation propre de notre groupe de travail. Donc la problématique de départ... À l'initiative de la création de ce groupe de travail, ça a été une réflexion sur l'importance de l'engagement politique et syndical au sein de l'enseignement et comment on fait pour le mettre en pratique. Parce qu'aller militer et lutter et manifester, c'est facile, mais comment en classe on peut prolonger cette réflexion politique ? Et pour aller plus loin et plus précisément au cœur de ce que c'est que la CNT, qu'est-ce que c'est que l'anarcho-syndicalisme à l'école ? Donc là, je reviens à peu près sur ce que c'est que la CNT, hein, plus généralement. Donc la CNT, c'est la Confédération nationale du travail. C'est avant tout un syndicat de travailleurs révolutionnaires, anti-autoritaires, qui se rattache aux mouvances de pensée anarchistes et libertaires. On lutte contre le système de classe, bien évidemment, et contre toute forme de domination et d'aliénation. Nos origines, on les doit aux travailleurs ouvriers paysans d'Espagne au début du XXe siècle, qui se sont battus pour se réapproprier leurs outils de travail et leurs espaces de travail contre la bourgeoisie et la monarchie. Donc ça, c'est notre héritage. L'idée, c'est quoi ? C'est du collectivisme révolutionnaire. Hein, et pour mettre à profit un système économique autogéré. Ça, c'est les principes, les grands principes de base de notre organisation.
Et du coup, on comptait aussi rappeler en quelques mots c'est quoi la CNT éducation plus spécifiquement, puisque donc on vous a présenté la CNT, mais donc la CNT éduque, c'est la Fédération de l'éducation en fait, et plus particulièrement donc nous on représente Éducation 93. Et avant de rentrer plus en profondeur dans qu'est-ce que ce GT qu'on a initié, on voulait rappeler véritablement pourquoi à l'Éduc 93, qu'est-ce qui fait qu'on a un ancrage territorial spécifique qui aussi a créé un cadre, des conditions de travail spécifiques qui ont aussi initié tout ce GT. Donc en quelques mots, en quelques lignes, on va vous rappeler certains chiffres parce que c'est toujours important de repartir de la base et donc justement de données précises. Donc la Seine-Saint-Denis, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le département le plus jeune de France. Donc on se situe à un âge moyen de 36 ans et les moins de 40 ans représentent donc 60% de la population et les plus jeunes, donc de 0 à 14 ans, représentent un tiers de la population. Parmi les tristes records qu'on célèbre ou pas, mais en tout cas qu'on dénonce, il y a un salaire moyen donc, qui est inférieur au salaire moyen national. Le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale. On a des taux de violence beaucoup plus importants que ceux des moyennes nationales. C'est également le troisième département le plus densément peuplé, après Paris, après les Hauts-de-Seine. Et c'est aussi donc le département le plus pauvre de la France métropolitaine, on insiste, avec donc 17,5% donc de pauvreté. Donc c'est pas pour faire une liste à la Prévert des tristes records du 9-3 qu'on vous donne tous ces chiffres, mais c'est quand même pour rappeler que l'endroit où nous, camarades donc de la CNT, de l'Éduc 93, où nous travaillons, c'est aussi un territoire particulier, un territoire quasiment unique, et que si les promesses des méthodes traditionnelles de l'éducation, entre guillemets, à la française, étaient si efficaces, à savoir la concurrence, le mérite, le fameux ascenseur social et autres théories de ruissellement des richesses, le département n'en serait pas là. Et donc, c'est, les habitants de tout un département ne vivraient pas avec autant de marqueurs sociaux négatifs. Et donc, en classe, en pratique, toutes ces inégalités sociales, elles se révèlent, bien sûr, au vu du panel d'élèves auxquels nous sommes confrontés, avec un éventail absolument monstrueux de difficultés en tout genre, sociales, économiques, j'en passe. Et donc, ça nous est paru un peu évident de tenter de penser l'éducation autrement, différemment. Et donc, ces questionnements quotidiens auxquels on s'affronte, auxquels on se confronte, ça nécessitait de passer par une réflexion à la fois individuelle, mais aussi et surtout collective et politique, donc à travers notre organisation syndicale. Et donc, en tant qu'enseignante, enseignant, syndicaliste anarcho-révolutionnaire, au vu du nombre des injustices auxquelles on est confronté, au vu de cette équation, on se pose des questions, finalement, comment sortir de ce marasme que constitue ce mensonge étatique et on se projette comment construire un avenir par la lutte. Et cette question, elle passe aussi essentiellement par repenser nos postures, nos méthodes en termes d'éducation et de pédagogie. Et c'est comme ça donc que le GT est né. Et je vais redonner la parole à ma camarade qui va vous présenter un peu plus approfondément.
Donc effectivement, le GT Anarchie et Pédagogie, il est né de notre expérience d'enseignant sur le territoire du 93. C'est donc un positionnement politique, c'est un engagement moral. C'est un groupe de travail qui réfléchit vraiment à l'émancipation de toute une société. Alors l'ambition est immense, mais les moyens ils sont tout petits. Hein, on n'est pas très très nombreux à la CNT. Et donc on perd le combat dans la rue, on perd le combat dans les urnes, mais on va pas à se laisser perdre le combat des idées l'idée c'est de faire vivre notre idéal hein, quand même. Donc le propos d'une société autogestionnaire, c'est justement la quête absolue d'une justice et d'une égalité. Aujourd'hui, on se fait pas d'illusions. On va pas établir une société juste et égalitaire demain. Hein, les principes anti-autoritaristes et autogestionnaires, ils vont pas être mis en place demain. Mais par contre, ces idées-là, elles vont nous aider à construire et à construire une pédagogie pour chaque individu et donc à s'émanciper. Donc, qu'est-ce que c'est exactement l'émancipation ? C'est élaborer un savoir qui va nous aider à construire une individualité à travers le collectif. Dans la question de l'émancipation, il y a nécessairement la dimension thérapeutique. Je vous renvoie au frère Houri, on en a parlé tout à l'heure avec la pédagogie institutionnelle. C'est vraiment une dimension qui est essentielle au niveau de la pédagogie. Il faut soigner l'être avant de soigner le groupe. Hein. On entre dans un collectif, mais on entre avec notre individualité. Le système scolaire représente le meilleur espace de la constitution d'un collectif injuste et arbitraire. À 3 ans, on est jeté dans un bâtiment, on est affecté à une classe sur le seul critère de notre âge. On n'a rien choisi. L'adulte attend tout de nous et puis on nous dit que c'est pour notre bien. On nous propose des activités forcées toute la journée et on nous dit encore que c'est pour notre bien. Donc forcément, ça crée une violence. Ça crée une violence interne, ça crée de la colère. Être enseignant, ça va être parfois, on l'a évoqué, être autoritaire. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis que parfois, ça va être la réponse qu'on va donner. Hein, quand on est enseignant, on a plusieurs choix. Quand on doit organiser ce petit monde qui n'est pas d'accord d'être à la base tous ensemble dans la même pièce, on a la voie éducative, on a la voie disciplinaire ou autoritaire, et puis on a la voie pédagogique. On peut utiliser les deux, les trois, un seul. Bon, moi, à mon sens, être enseignant, c'est avant tout faire le choix de la pédagogie. Ça me semble évident. Donc, la pédagogie, c'est quoi ? C'est construire un modus operandi qui rendra grâce à l'individu, tout en construisant le collectif, donc en apportant un contenu suffisamment riche pour aider l'enfant à s'élever et à devenir un citoyen éclairé. Tout à l'heure, vous releviez que le mot citoyen pouvait questionner. Alors effectivement, il questionne. Moi, je trouve quand même important parce que le citoyen, c'est celui qui appartient à la cité. Hein, c'est pas celui qui se soumet à l'État totalitaire. Et appartenir à la cité, c'est en être membre, c'est la faire évoluer. Et donc faire évoluer la société, et en y participant activement, et aller dans le sens du progrès. Hein, le progrès, c'est pas forcément l'enrichissement, la course à la lune ou la technologie. Le progrès, c'est la paix pour tous les peuples, c'est le droit pour chacun à vivre une vie sans aliénation. Ça, c'est important, aliénation de l'ordre systémique et sociétal. Mais il faut être encore capable, et ça, vous le disiez tout à l'heure, monsieur Lenoir, de l'identifier, cette aliénation. Hein. Il faut pouvoir la nommer. Il faut pouvoir dire, là, je suis en train de vivre une domination. Là, en ce moment, on est en train de me mettre en esclavage. Et c'est ça, en fait, le principe de base du travail pédagogique et de l'association, de l'anarchie et de la pédagogie. Donc, voilà, le projet Anarchie et Pédagogie est né. Il vient de renaître sous vos yeux. Hein. Donc, c'est vraiment l'idée de mettre en lumière l'aliénation systémique et sociétale au défi de la complexité singulière de chaque individu et de leur groupe d'appartenance dont il dépend, culturel, social, religieux, etc. Être émancipé, c'est accepter qui on est et d'où on vient et où on est aussi. Alors, là où on nous a imposé d'être, tout en étant capable d'y apporter un regard critique allant dans le sens d'une justice sociale pour créer l'Ubuntu. Alors, Ubuntu, c'est un mot qui est utilisé par Linux, mais à la base, c'est un mot qui est emprunté aux sociétés bantoues. Hein. Tiki, le bonheur ne se construit qu'avec les autres, en fait. Je ne peux pas être heureux seul dans mon coin et vivre de l'abondance entouré de gens qui pleurent et qui sont tristes. Donc voilà, c'est un emprunt que je fais, mais que je trouve ce mot qui résume un état très complexe qui est assez beau. Et puis, bah voilà, du coup, il est né. Et puis, on a une organisation qu'on va vous présenter. Et je donne le micro à mon camarade.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, le groupe de travail qu'on a, donc c'est un groupe Anarchie et Pédagogie. C'est un groupe d'auto-formation. Ça, c'est quelque chose qui est important, on pourra peut-être revenir dessus après. Donc auto-formation pédagogique et politique, on fait bien aller les deux ensemble, que nous avons fondé donc à la CNT Éducation 93. Et donc on a comme but de former et de s'accompagner chacune ensemble dans notre rapport aux élèves, aux parents, aux collègues, à l'institution. Forcément, l'institution, elle est hyper importante, on y reviendra aussi. Et définir comment nous, anarcho-syndicalistes, on veut faire classe. Donc on veut construire, promouvoir une école émancipatrice, égalitaire, autogestionnaire, à partir des idéaux anarcho-syndicalistes. Ça, on en a parlé. Et donc, puisque c'est politique, on essaie de mettre en accord tout ça. Nos idéaux pédagogiques, Et matériellement aussi, hein. Et la pratique, voilà, pratique de classe, qu'est-ce qui est en accord, comment on articule tout ça. Donc les axes de travail qu'on a retenus pour ce groupe, c'est la documentation, de lire, recueillir des témoignages, de nous, d'élèves, etc., d'avoir un travail régulier de collecte d'informations, d'écrire, produire des textes ressources, pour publication, pour diffusion, etc. On se réunit en assemblée, on peut faire des visites de classe, organiser des ateliers de travail, imaginer des méthodes de travail en classe, qu'est-ce qu'on fait avec les élèves, comment on les met en pratique, en faire des retours réguliers, et à la fin, archiver, puisque bon, si ça a fonctionné ou pas fonctionné, il faut derrière pouvoir le retravailler, donc l'archivage c'est important. Et puis comment est-ce qu'on élargit, comment est-ce qu'on le diffuse. Aujourd'hui, par exemple, on vient vous en parler et par d'autres événements. Donc voilà, comment on développe, comment on s'approprie des outils pour la classe, pour des gestes professionnels, et pour que nos élèves, derrière, on a parlé d'émancipation de nos élèves, d'esprit critique, ça a été cité tout à l'heure, leur rapport au monde. Pour de nouveau aussi s'émanciper. Alors, beaucoup de théories là, et du coup la mise en place, forcément derrière c'est toujours plus complexe. C'est beaucoup de mots, mais comment derrière on fait, comment on prend en compte chaque individu, comment on prend en compte la notion de groupe, parce que quand on a une classe, les classes ne sont pas les mêmes. Et puis ce groupe, il est contraint par plein de choses. Comment est-ce qu'on travaille, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un bagage suffisant en termes de savoir ou pas? Ça peut dépendre des situations. Et puis abandonner des fonctionnements en tant que, et des facilités en tant qu'enseignant, quoi, ce qu'on appelle parfois un habitus, une manière d'être devant les autres. Et donc on se réunit, donc ce groupe de travail, on le réunit régulièrement, autant que faire se peut, depuis quasiment 4 ans maintenant. Et puis toujours avec l'angle des principes de l'anarcho-syndicalisme, donc l'autogestion, l'émancipation, la réappropriation des outils de travail, l'anti-autoritarisme, et la coopération. La liste n'est pas finie, bien sûr. Et donc chaque militant, militante, toute personne vient, expose un thème, un sujet, une problématique. On s'est un petit peu documenté à l'avance, un peu, on peut construire une bibliographie, sourcer des références. Voilà, et la porte est ouverte à ce que chacune veut faire. Les thèmes dont on a parlé, on a listé quelques exemples. Comment est-ce qu'on pratique l'autogestion en classe? Donc on a défriché des théoriciens de l'enseignement libertaire. On a survolé comment on met en place des pratiques concrètes d'autogestion à l'école, et notamment avec les exemples historiques, donc Summerhill, les invariants de Fresnel, le système de ceinture à la Houri. Ça c'était donc premier exemple. Deuxième exemple, l'école hors les murs. Comment est-ce qu'on libère l'école, comment on se libère, comment on décloisonne la classe, comment est-ce qu'on va à rencontre de la nature et de l'environnement, de la ville, des rues, des parcs, des jardins, des habitants, tout en n'étant pas dans un rapport consumériste et capitaliste. Repousser les frontières de la salle de classe, discuter le réel, se confronter à lui. Troisième exemple, donc, comment est-ce qu'on coopère sans collaborer en classe, alors même si les mots peuvent être... Bien sûr, il y a un poids politique, un de ces mots-là, un poids historique de coopération, collaboration. Mais voilà, comment est-ce qu'on construit les outils émancipateurs? Comment est-ce qu'on transforme comment est-ce qu'on peut transformer en pédagogie de projet, etc. etc. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Dans quelles conditions? Est-ce que c'est souhaitable, pas souhaitable, pour quel projet de société derrière, quoi. Autre thème, travailler l'épistémologie, la construction des savoirs scientifiques. Donc on a fait des réflexions sur les enjeux politiques, ça a été abordé tout à l'heure, mais sur la science par exemple comme rapport à la vérité, vérité absolue, vérité relative, de la science au service de la surproduction, la science comme savoir élitiste. Comment est-ce qu'on fait dans nos classes des situations de recherche expérimentales, et comment est-ce qu'on inscrit les élèves dans une démarche scientifique, observer une loi, la détruire, la prouver, mais ça a été abordé tout à l'heure. La question du racisme, on en a parlé aussi. Donc, à l'éducation nationale, il y a une semaine par an, souvent, de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et donc, on questionne qu'est-ce que le racisme quand il n'est pas d'État, qui sont les racistes. Et tout le monde peut l'être, personne ne peut l'être. Ça permet de questionner ça avec les élèves. Les questions d'essentialisation, les origines réelles ou fantasmées. Les deux derniers, on a parlé de la littérature et de sa valeur émancipatrice. Elle peut être vue comme aliénante ou oppressive, la littérature, et donc la solution pourrait être une lecture créatrice, s'approprier le texte par le lecteur, lecteur-sujet, sujet-lecteur. La prof, je suis en train de beaucoup lire là. Quelle expérience, quel lien avec la personnalité des élèves, comment ils s'approprient le texte, avec les sujets d'invention, les pactes de lecture, les journaux de lecteurs. C'est un truc qui est connu là pour Fresnel, c'est la création de journaux, pour aussi qu'il y ait un recul, que les élèves se créent un recul critique. Et enfin, on a parlé de géographie, pour un enseignement critique et radical de la géographie scolaire. Donc avec une classe de collège qui sont interrogés sur la réalité du terrain, donc ils sont aussi sortis, etc. Les injonctions de l'institution, les politiques de l'éducation et les discours médiatiques. Je repasse la parole.
Donc ça, c'est pour le contenu propre de Anarchie et Pédagogie. Donc vous voyez, on brosse tout un tas de sujets pour lesquels on essaie de trouver des solutions et puis ensuite des mises en application, puis des retours sur ce qu'on a pu faire. Et puis aussi en parallèle, donc le dernier point de nos objectifs, c'est élargir. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être tout seul dans notre coin, puis faire notre truc, et puis continuer de discuter entre nous dans l'entre-soi. L'idée, c'est aussi d'ouvrir et de proposer ce qu'on fait à l'extérieur. Donc on peut créer des événements. L'année dernière, on s'est associé avec la Neuville pour faire ce qu'on appelle un ciné-chat. Donc ils sont venus, on a projeté un film sur la Neuville, puis après il y a eu un débat donc dans nos locaux, 33 rue des Vignoles à la CNT. On a organisé l'année dernière une journée qu'on a appelée mini-festival anarchie et pédagogie, où on a repris les thèmes qu'on aborde dans l'entre-soi, mais ouvert au public. Voilà, donc exactement à peu près le même forme de journée qu'aujourd'hui, hein, c'est le même principe. Donc on a réabordé la géographie radicale, le théâtre en milieu scolaire, la vision de l'ennemi, donc vision de l'ennemi, l'ennemi c'est l'État, hein. Vision de l'ennemi, analyse critique des directives ministérielles. Voilà, bon là on a reparlé du SNU, hein, du SNU, parce que c'est quand même très important. Ça va être une des prochaines luttes chez nous à l'éducation, hein, ne pas s'associer avec l'armée. Et puis voilà, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment cette idée d'élargir, d'ouvrir, et on vous invite à venir éventuellement aux événements qu'on propose. On a une petite conclusion et ça sera fini. Oui, ah, presque.
Juste avant, oui, je voulais rappeler aussi que les thématiques qu'on peut décliner au sein du GT Anarchie Pédagogie, on essaie autant que faire se peut de le refléter aussi à la radio. On a notre émission Édu 93 tous les deuxièmes mardis du mois, donc à Radio Libertaire. Et donc aussi, on en profite pour, dans la logique de ce que disait ma camarade, d'élargir au maximum. Et donc, c'est aussi par la radio que ça se passe, n'est-ce pas, comme aujourd'hui.
Ouais, pour terminer, on a abordé un aspect important de notre travail, donc sur les réflexions éducatives, parce qu'on est travailleurs de l'éducation. Il y a bien sûr pas que ça. On est un syndicat, donc on parle aussi des questions de droits des travailleurs et des travailleuses, discuter, défendre, lutter des luttes. Ça a été beaucoup abordé sur le lycée autogéré. Et le fonctionnement de l'institution, il faut pas l'oublier, il va contraindre. Beaucoup, il va empêcher très souvent de mener d'autres pédagogies et en allant jusqu'à la répression. Donc, ne tombons pas non plus dans la facilité de dire que quand on dit que des personnes ne tentent pas des choses, ne se saisissent pas de types de pédagogie, etc. Et il ne faut pas oublier ce qu'elles ont subi si elles sont sorties du cadre de l'éducation nationale. Et n'oublions pas non plus le temps qui nous est volé par le capitalisme. Et qui nous empêche de réfléchir davantage à nos pratiques pédagogiques. Voilà. Vive la lutte des classes et vive l'autogestion.
Merci. Bien, y a-t-il des remarques ? J'ai fait une petite annonce, parce qu'on parle du 93. Là, les copains de l'ARI organisent le mercredi 22 mai une cantine de soutien à la caisse de grève des enseignants du 93. Hein, donc faites savoir que vous pouvez cantiner ici et soutenir les enseignants qui sont en lutte récurrente dans le 93 depuis des mois. Et c'est probablement pas terminé. Voilà. Donc des remarques.
Donc pour rebondir sur ce que tu disais, où effectivement ça n'a pas l'air facile de sortir du cadre, si je comprends bien. Donc par rapport à ce que vous développez et par rapport au rapport d'autorité, comment est-ce que vous avez un exemple peut-être concret de vous, comment vous fonctionnez avec votre classe, parce que je comprends que vous êtes enseignant. Quelque chose que voilà.
Qui répond ?
Alors moi je suis prof d'art plastique et très concrètement ça va être peut-être déjà de transmettre aux élèves qu'on peut fonctionner sur un mode d'horizontalité en leur en les valorisant, en étant bienveillants et en leur faisant comprendre qu'en fait il me semble qu'on apprend aussi beaucoup essentiellement d'eux et que le savoir c'est pas quelque chose de descendant forcément et que quand on leur laisse un espace suffisant pour qu'ils puissent s'exprimer, s'entendre, s'écouter et prendre conscience qu'ils ont des choses à dire et qu'il faut qu'elles sortent et qu'on peut aussi rebondir, nous, en tant que pédagogues, en tant qu'enseignants, sur ce qu'ils proposent, parce qu'ils proposent plein de choses, en fait. Et, Et ça peut nous permettre, nous, de construire nos séquences, nos séances, de les orienter différemment, de penser aussi à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé sans écouter leur voix. Et il me semble que déjà, la question de déconstruire l'autorité et de la prendre par un biais différent, ça passe aussi par la revalorisation des savoirs que nous transmettent aussi nos élèves, quoi.
Donc oui, la question de l'autorité, c'est la première question que je me suis posée quand j'ai pris ma classe. En fait, ça a été vraiment un gros problème dans ma vie. Est-ce que je veux devenir ce maître? Et non, je ne voulais pas. Je ne voulais pas du tout. J'ai eu de la chance. J'ai travaillé pendant 6 ans dans une école où on travaillait essentiellement en pédagogie freinée et pédagogie institutionnelle, avec une libre circulation des élèves, avec des ateliers, avec des super C'est vendredi, toutes les 15 jours où les enfants pouvaient mettre en valeur la réussite de leur travail. Avec des quoi neufs, avec des plans de travail et des conseils de classe et des conseils au niveau école d'élèves. Donc j'ai pu profiter, j'ai pu voir les bienfaits pendant 6 années de ce fonctionnement anti-autoritariste, excusez-moi, j'ai du mal avec ce mot, et les bienfaits sont énormes. On avait un climat scolaire, alors qu'on travaillait en 93, à Saint-Denis, très proche de quartiers assez complexes, un climat scolaire qui était très apaisé. On a des enfants avec un langage oral très soutenu. Quand ils partaient en sixième, on avait énormément de compliments de la part des enseignants du collège qui disaient « mais qu'est-ce qui parle bien, qu'est-ce qui se débrouille bien ?» La plupart devenaient délégués. Alors nous, on était contre le délégué, hein, on était plutôt dans les mandats, c'est-à-dire que quand on a une bonne idée, on peut aller au conseil. Voilà, on avait un système de ceinture, donc les ceintures, peu importe les couleurs, mais en gros la dernière ceinture, la plus élevée, la plus responsable, c'était marron, et l'élève de ceinture marron pouvait participer au conseil des maîtres. Alors pas à tout, parce qu'il y a des moments qui sont confidentiels, hein, quand on parle de sujets d'élèves qui vivent des choses terribles, les enfants n'ont pas à y participer, mais par contre quand il était question de répartition des bus attribués par la ville, eh bien, ils pouvaient être là et ils pouvaient aussi participer au conseil d'école. Donc on est allé jusque là. Bien sûr, l'inspecteur à ce moment-là, ça lui a pas plu, hein, ça lui a pas plu du tout. Donc qu'est-ce qu'il a commencé à faire? À mettre des coups de pression à droite, à gauche, à utiliser les éléments les plus fragiles, à isoler le directeur notamment, qui était totalement en accord et qui nous soutenait totalement dans ce qu'on faisait, mais à l'isoler tellement qu'il s'est retrouvé entre le marteau et l'enclume, et puis à en souffrir, à se désengager des projets, et puis c'est comme ça qu'on détruit en fait, hein. Donc le LAP, ils expliquent aussi, hein, c'est toujours la même mécanique, c'est systématiquement toujours la même chose, isoler, menacer, c'est tout le temps la même chose, c'est très pression, elle est violente, parce qu'elle vous isole, parce qu'ils vous remettent en cause sur vos compétences d'enseignant, enfin c'est vraiment du sapage total de la personne. Tout à l'heure, je ne sais plus, la personne qui est intervenue pour l'AP a dit « il nous extermine ou tue ». Il a utilisé un mot très violent. Et moi, il résonne en moi. Il résonne en moi parce que je l'ai vécu. Et je sais que je n'ai pas fini de le vivre, mais je vais rester, par contre. Voilà.
Merci pour ces témoignages. D'autres interventions ?
Merci. C'était juste une question... Comme votre projet, il est politique et systémique, comment vous pensez les parents dans cette démarche ?
Eh bien, c'est une excellente question. Non, c'est pas à moi. C'est une question qui me renvoie à des expériences très précises et qui ont parfois été douloureuses. Alors moi, pour moi, les parents, il faut absolument être très clair. Ce matin, il y a une personne qui s'appelle Isabelle Aubel qui a présenté son travail et qui disait, moi, je suis très claire avec les parents. Oui, il faut être très clair, il faut être très transparent avec ce qu'on a décidé de faire et comment on va le faire. Maintenant, bien sûr... dire que je suis anarchiste, que je suis dans un syndicat, etc., ça, c'est non. Mais par contre, les pratiques pédagogiques, comment je vais le faire, pourquoi je vais le faire, parce que je suis pour l'égalité, pour la justice, etc., ça, c'est des notions sur lesquelles on emporte tout le monde. Il n'y a pas de problème, en fait. Anarchiste, ça fait peur, mais justice et égalité, c'est OK. Fraternité, c'est OK, on peut le dire. Et du coup, là-dessus, on peut très bien discuter avec les parents. Maintenant, quand on est à l'école publique et que notre projet ne plaît pas, les parents peuvent être parfois instrumentalisés par l'institution à notre rencontre, ce qui nous est arrivé. Et ça, c'est violent, par contre. Voilà, ça c'est violent. Mais bon, je ne vais pas me répandre sur ce sujet-là.
Okay. Reste que la place des parents est importante dans cette logique anarcho-syndicaliste pour associer l'ensemble de la société au projet éducatif, quoi.
C'est juste.
J'ai été un peu anarcho-syndicaliste dans mes heures glorieuses autrefois. D'autres remarques ? Hop ! Elle lève la main et je lui passe la bête.
Oui, bonjour. Je voulais m'exprimer par rapport au choix de la pédagogie, parce que c'est ce que vous proposiez dans votre discours. Et j'étais troublée, parce que pour moi, c'est pas un choix, la pédagogie. Je veux dire que il y avait trois alternatives et vous avez fait le choix de la pédagogie. Pour moi, c'est quelque chose qui est fascinant. Je trouve ça très fort. Je n'ai pas eu le choix d'être pédagogue. Personnellement. Voilà, c'est tout.
Je ne sais pas s'il y a une réponse, c'est pas forcément non plus. Hein.
Ouais. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire, c'est que quand on débarque en tant que prof, effectivement, il n'y a pas forcément de choix évident ou naturel ni facile. Enfin, il y a peut-être que dans le 93, le choix pédagogique. Arrive vite et encore. Je pense que le choix majoritairement développé par les profs en France, ça va être le choix éducatif, c'est-à-dire on fait nos cours et puis fin. Voilà. À cause du fonctionnement institutionnel, à cause du nombre d'heures qu'on doit faire, c'est le choix facile. C'est de la même manière que un ouvrier, il arrive dans l'usine, il va faire ses pièces, si c'est une usine OAD, et voilà. C'est le choix, voilà, parce que c'est le choix systémique. Et donc, faire le choix de la voie pédagogique, ça peut paraître naturel ou spontané ou nécessaire, bien, enfin, oui, ça peut paraître nécessaire, mais c'est pas le choix, c'est pas forcément le choix le plus facile. Et mais tant mieux que pour plein de personnes, ce soit le choix évident et ce soit tout de suite ça. Bien sûr, tant mieux. Mais si on essaie de réfléchir à une échelle globale, c'est compliqué.
Et pour rebondir sur ce que disait mon camarade, il me semble aussi que si c'était un choix aussi évident, etc., on n'aurait pas autant d'élèves qui sont complètement broyés par l'institution et on serait pas confronté à des élèves avec d'aussi grandes difficultés et ensuite à récupérer et à reconstruire comme des petites sculptures qui des fois tombent et après il faut recoller les morceaux, on n'aurait pas des élèves qui sont aussi fracassés, quoi.